Léaïa, donne-moi des bonnes causes à servir. Donne-moi des seigneurs dont les horizons sont vastes, à qui je puisse apporter ma fidèle efficacité organisatrice. Tu m'as appris, Seigneur, à combiner l'eau avec le feu, l'air avec la terre. Et dans cette tâche, j'espère cueillir des lauriers et des titres de gloire. Oriente-moi vers des situations dans lesquelles puissent briller les qualités que tu m'as insufflées. Et s'il m'appartient de travailler pour des seigneurs bas et mesquins, dépose en moi l'ambition d'être juste, fais qu'avec ma voix et mon geste, je puisse apaiser les esprits coléreux. Fais que je sois un exemple de générosité et de dévouement. Fais que mon cœur et mon cerveau vivent en parfaite harmonie, ainsi que mes pensées et mes actes, et que je puisse transmettre à mes frères cette paix que tu as mise dans mon âme. Fais de moi, Léaïa, le pilier inamovible de la colonne du centre de l'arbre de la vie.
Ah, vous lisez des textes? Ah, bien sûr. Bien sûr, nous lisons des textes, mon ami. Parce que nous cherchons toujours à bien canaliser nos énergies. Hein. Nous devons avoir des références, hein, vous comprenez. Hein. Ah, vous cherchez des références. Vous cherchez des références. Ah, bien sûr, mon ami. Bien sûr. Mais pourquoi vous cherchez des références? Parce que ça nous permet de bien agir. Hein. Ça nous permet surtout de nous adapter. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que si vous n'avez pas des théories pour expliquer votre situation, si vous ne trouvez aucun argument, vous ne trouvez aucun texte déjà écrit, parce que comme nous le disons, hein, tout est déjà dit, hein, tout est déjà dit, il y a des mots qui existent déjà. Hein. Nos ancêtres ont déjà prononcé des mots, nos ancêtres ont déjà posé des gestes. Alors, il faut juste les utiliser et savoir quand est-ce qu'on peut les utiliser. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'adapter. Parce que les choses avancent, les choses évoluent rapidement. Alors, c'est la même chose qui se passe présentement en Haïti. Alors, vous comprenez. Ah, il y a des choses qui se passent en Haïti présentement. Oh, bien sûr, mon ami. Quand vous regardez ce qui se passe en Haïti présentement, hein, quand vous regardez ce qui se passe en Haïti, vous devez vous poser la question. Si certaines personnes ont cette intelligence d'adaptation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Quand vous avez Ariel Henry qui n'arrive pas à comprendre qu'il faut qu'il remette sa démission pour permettre au pays d'avancer, pour empêcher qu'il y ait un carnage dans ce pays-là, pour qu'il n'y ait pas de violence gratuite dans ce pays-là. Il refuse de démissionner. Il refuse de reconnaître que son temps est terminé, que son temps est passé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose également, hein. Si vous pensez à Franz LB, le directeur de la police nationale d'Haïti, la PNH. Il est sorti, hein, vous avez vu, hein, vous avez remarqué, hein. Il est sorti, hein. Il vient se frapper son estomac, hein. Il vient de frapper son estomac, hein. C'est comme un compère coq. C'est un compère coq. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Alors, il vient de montrer qu'il n'a aucune intelligence d'adaptation, hein. Alors, il faut bien comprendre, hein, que certaines personnes n'ont pas cette capacité-là pour s'adapter. Ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à comprendre lorsqu'il est temps pour s'adapter à la réalité. Ils n'arrivent pas à s'adapter. D'ailleurs, si on leur pose la question là, d'ailleurs quand on regarde bien la situation qui se détériore en Haïti. Pourquoi? Parce que vous avez un chef de police d'Haïti, vous avez un chef de police, le directeur de la PNH, Franz LB. Alors, si vous lui posez la question, hein, j'aimerais bien qu'on lui pose la question. Hein. Qu'est-ce qu'il défend présentement? Qu'est-ce qu'il défend présentement? Il n'y a personne qui peut comprendre qu'est-ce qu'il est en train de défendre présentement. Est-ce qu'il est en train de défendre Ariel Henry? Est-ce qu'il est en train de défendre un statu quo? Ou bien, tout simplement, il est en train de travailler pour pouvoir détruire toute la police nationale? Alors, il comprend pas. Il ne comprend pas. On pouvait comprendre, n'importe qui pouvait comprendre. Que si des bandits, si c'était vrai que vous luttiez contre les bandits. D'ailleurs, on a remarqué que ce n'était pas vrai, que la police nationale d'Haïti ne s'est jamais mise à lutter contre le banditisme en Haïti. Mais quand on leur demande de s'attaquer, d'aller assassiner 5 agents du BSAP, ils étaient capables de le faire à Pétionville. Est-ce que vous comprenez, hein? On peut leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre présentement? Ils ne défendent rien. Ils n'ont aucun idéal. Ils n'ont aucune stratégie. Et ils sont en train de détruire complètement la police nationale d'Haïti. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous luttez contre quelqu'un. Vous luttez contre qui? On doit vous poser la question, France LB, si vous n'êtes pas... Je suppose qu'il manque d'intelligence. Je suppose qu'il n'a même pas d'intelligence, parce que quand vous pensez que vous n'arrivez même pas à comprendre que vous devez vous adapter. D'ailleurs, si vous regardez les chefs des bandits, on peut les appeler comme ça, même si nous essayons de les traiter pour ce qu'ils sont présentement. C'est des leaders communautaires. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, quand vous avez les chefs de bandits qui finissent par comprendre, comme nos ancêtres l'ont fait dans le passé, on appelait Toussaint Louverture un bandit, on appelait Jean-Jacques Dessalines des bandits, on appelait tout le monde des bandits. Pétion était considéré comme des bandits. Macandal était considéré comme des bandits. D'ailleurs, rappelez-vous comment ils l'ont assassiné, Macandal. Ils ont coupé sa tête. Ils l'ont traîné. Ils l'ont placé un peu partout pour que des mouches, des fourmis, des abeilles, en arrosant sa tête du sirop miel, pour que les guêpes, les miels, les abeilles les mangent. Est-ce que vous comprenez, hein? Le lendemain du soulèvement du Bois Caïman, qu'est-ce qu'on a fait à Toussaint, à Boukman? On a coupé sa tête. Vous comprenez? Et on a traîné sa tête dans la ville du Cap. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les héros que nous célébrons aujourd'hui, les gens qui nous ont permis d'avoir notre pays aujourd'hui, ils étaient tous considérés comme des bandits. On les traitait comme des bandits, mais une fois qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, une fois qu'on a fini par comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils étaient capables de comprendre, et quand ils se sont retournés contre les Blancs, et là on a compris que c'était de vrais leaders. Est-ce que vous comprenez ça? Les chefs des bandits, les chefs des quartiers, les leaders communautaires dans les quartiers, qui étaient des bandits. Hier, ils étaient considérés comme des bandits. Hier, ils agissaient comme des bandits. Mais aujourd'hui, vous avez remarqué, ils sont en train de changer. Et s'ils sont en train de changer, c'est-à-dire ils ont fini par prendre conscience qu'ils doivent lutter aux côtés du peuple haïtien. Et ce faisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les voies. Ils laissent passer les voitures. Ils laissent passer les autos. Ils laissent passer les camions. Et ils sont en train de libérer tous les parcours afin de permettre que la nourriture, les villes qui étaient bloquées, qui étaient fermées, soient ouvertes. Est-ce que vous avez compris à quel niveau que ceux qu'on traitait comme des bandits sont en train de retourner leurs fusils vers ceux qui les ont donné leurs fusils? Est-ce que vous avez compris qu'ils sont en train de s'adapter à la réalité, qu'ils sont en train de prendre conscience et devenir de véritables citoyens, de véritables leaders dans leur communauté? Est-ce que vous avez compris ça? Alors quand vous constatez, ils avaient pris du monde en otage,
les bandits avaient pris du monde en otage. Ils ont pris des prêtres, ils ont pris des sœurs, des bonnes sœurs, de l'église catholique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont libérés, ils ont annoncé qu'ils allaient les libérer. Et ils ont libéré les bonnes sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris, ils ont pris conscience qu'ils doivent lutter pour le changement du pays, pour un changement radical dans ce pays-là. Mais pour pouvoir changer radicalement ce pays, il fallait qu'ils retournent leurs armes contre leurs bourreaux, contre ceux qui ont mis des armes dans leurs mains. Ils ont compris, ils ont pris conscience qu'ils doivent lutter pour changer le pays, parce que en changeant le pays, ils vont permettre à tous les citoyens haïtiens, à tous les haïtiens, de vivre bien, de refonder la nation haïtienne, de recréer l'État d'Haïti. Voilà ce qu'ils sont en train de comprendre. Alors, quand ils sont en train de comprendre qu'ils doivent s'adapter, ils ont cette intelligence pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir se mettre au service du pays, pour pouvoir lutter, pour pouvoir changer les choses. Parce qu'ils comprennent qu'en changeant leur fusil d'épaule, en retournant leur fusil vers ceux qui les ont armés, ils sont en train de construire le pays, ils sont en train d'investir dans le pays, ils sont en train de se mettre au service du pays pour pouvoir changer le sort de leurs frères et sœurs qui vivent dans les ghettos comme eux, à côté d'eux. Mais sauf que, quand vous avez un chef de la police nationale qui est sorti avec toute sa mitraille, et comme s'il était le plus... Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Alors quand vous êtes un France LB et que vous ne comprenez pas que vous devez changer votre fusil d'épaule, et que ce que les chefs des bandits sont en train d'expliquer à France LB, il faut changer, ils sont capables de changer, ils étaient en mesure de comprendre qu'ils peuvent changer leur façon de voir la chose. Ils avaient compris une chose. Ils avaient compris que ceux qui avaient mis des armes dans leurs mains, c'était contre leurs frères. Mais vous, France LB, vous, la direction nationale de la police nationale d'Haïti, qu'est-ce que vous défendez? Et quand les bandits disaient que c'était la police qui était responsable du banditisme dans le pays, et que c'est la police qui n'arrêtait pas d'assassiner les gens, qui n'arrêtait pas d'assassiner les citoyens, et qui les faisait chanter, et qui étaient dans des combinaisons avec eux autres pour pouvoir leur vendre des balles, pour pouvoir leur vendre des armes à feu. Ils sont en train de gagner ce pari, ils sont en train de nous prouver qu'ils avaient raison. Est-ce que vous comprenez ça, France LB, et tous les autres membres de la direction nationale de la police nationale d'Haïti? Avez-vous compris ça? Si vous êtes en train de défendre Ariel Henry, qu'est-ce que ça vous rapportera? Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que cela va vous rapporter en défendant Ariel Henry, qui n'a jamais rien fait pour pouvoir sauver ce pays, qui n'a jamais rien fait pour pouvoir atténuer le sort de citoyens haïtiens? Quand vous avez des Haïtiens qui sont partis, qui ont été forcés de quitter leur quartier pour aller vivre sur les places publiques, dans des écoles publiques, et de nos jours, vous les avez vus, hein? Vous les avez vus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont encore peur. Parce qu'ils ont encore peur. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils s'en vont au ministère de l'Éducation nationale. Ils envahissent le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que c'est plus sécuritaire pour eux. Est-ce que vous avez compris tout ça? Ils sont en train d'envahir le local du ministère de l'information et de la culture, le ministère de l'information et de la culture. Ce sont des citoyens qui n'arrivent plus à rester dans leur quartier, qui sont allés vivre dans ces bâtisses-là. Est-ce que vous avez compris tout ça? Quand vous avez des gens qui se retrouvent au gymnasium Vincent de la rue Romain, et que des policiers sont obligés d'aller tirer sur ces personnes-là. Ils assassinent des gens, ils assassinent des personnes âgées. Voilà ce que la police nationale est en train de défendre. Est-ce que la direction nationale de la police nationale d'Haïti comprend, arrive à comprendre
qu'ils sont en train de faire plus de tort au pays que les bandits qu'ils disent pouvoir lutter contre eux autres. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Est-ce que Elbe est en train de défendre Ariel Henry ou bien est en train de défendre un statu quo de la bourgeoisie d'Haïti et des ambassades étrangères et des puissances étrangères et colonialistes en Haïti? Ou bien France LB et la police nationale sont en train de défendre de meilleures conditions de vie pour tous les Haïtiens. Voilà la question qui est posée. Voilà la question qui est posée à ces individus sans scrupule et sans gêne non plus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors quand vous avez un chef de la police nationale qui est sorti avec toute son artillerie, il sort comme... Vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein? Est-ce que vous avez compris, hein? Il n'a aucune intelligence d'adaptation. Vous comprenez, hein? Alors, c'est la même situation, hein? On doit se poser la question à savoir qui, véritablement, présentement, est en train de défendre le pays, est en train de défendre le peuple haïtien. Est-ce que ce sont les bandits, ceux qu'on a toujours considérés comme des bandits, parce qu'ils étaient conscients, parce qu'ils avaient compris que le système dans lequel ils vivaient, c'était un système de violence, et que cette violence était exercée sur eux, et qu'il fallait utiliser cette violence-là pour pouvoir s'en sortir et sortir la tête de l'eau. Est-ce que c'est ça que vous, est-ce que vous avez compris ça? Ou bien, est-ce que c'est la police nationale qui est en train de défendre Ariel Henry, qui est en train de défendre le statu quo de la bourgeoisie avec un système d'exclusion de la grande majorité des Haïtiens? Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de défendre, France LB? Et si vous persistez dans cette voie, vous allez détruire la police nationale. Pourquoi? Parce que les leaders communautaires seront sans répit. Ils attaqueront sans répit. Et jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que votre équipe et votre direction générale de la police nationale, ainsi que des forces spécialisées comme le UDMO, comme le BOLD, comme le USGPN, finissent par comprendre qu'ils doivent se mettre du côté du peuple haïtien. Alors, comme nous le disons, le pays n'est pas divisé, mais ce sont certaines personnes, ce sont ces personnes-là, comme des France LB, comme des Ariel Henry, qui s'accrochent au pouvoir, qui finissent par comprendre qu'ils ne peuvent pas défendre le pays. Alors, quand vous comprenez que vous vivez dans cette situation-là et que vous avez des bandits, des chefs de bandits qui sont devenus des leaders communautaires dans leur quartier, qui défendent leur population, mais qui se sont défendus d'abord pour pouvoir sortir la tête, pour avoir accès à certains privilèges dans ce pays-là. Alors, est-ce que vous avez compris que vous n'avez aucun idéal? Et lorsque nous disons, Seigneur, donnez-nous des seigneurs à qui nous pouvons apporter notre efficacité organisatrice. Donnez-nous des seigneurs dont les horizons sont vastes. C'est quoi ça veut dire? Et qu'est-ce que vous comprenez quand nous disons ça? Donnez-nous des seigneurs dont les horizons sont vastes, à qui nous pouvons apporter notre fidèle efficacité organisatrice. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que Ariel Henry a des horizons vastes? France LB, je vous pose la question, c'est à vous que je pose la question, et également je pose la question aux inspecteurs généraux de la police nationale, aux inspecteurs départementaux de la police nationale, à la direction, à tous les représentants, à tous les commissaires de police dans le pays. C'est à vous que je m'adresse, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous défendez? Est-ce que vous servez des seigneurs qui ont des horizons vastes, qui sont capables de comprendre au-delà de leur nez, au-delà de leur nombril, les problèmes majeurs de ce pays-là? Êtes-vous capable de vous adapter? D'ailleurs, je me souviens, et je le répète souvent, cette phrase: si vous montez, n'oubliez pas de saluer les gens que vous croisez sur votre chemin. Si vous montez des escaliers, si vous prenez de l'ascension, N'oubliez pas de saluer les gens que vous croisez sur votre chemin, car ce sont ces mêmes personnes-là que vous allez croiser en descendant. Voilà ce que je me souviens avoir lu quelque part. Je pense que c'était une citation que j'avais lue quelque part. Alors, la question que je vous pose, la question que je pose aux responsables de la police nationale, êtes-vous pour la destruction de la police nationale ou bien en défendant des Ariel Henry, en défendant un statu quo, en défendant des intérêts étrangers à l'intérieur du pays? La question vous est posée, c'est à vous que je pose la question. Êtes-vous capable de vous adapter? Est-ce que vous comprenez, hein? Êtes-vous capable de vous adapter à la nouvelle réalité quand les bandits changent leur fusil d'épaule? Êtes-vous aussi capable de changer votre fusil d'épaule? C'est la même chose qu'on pourrait poser, parce que en constatant également, pour nous par exemple, si vous avez un enfant chez vous, si vous avez votre propre enfant, à qui vous donnez des ordres qui ne respectent pas vos ordres, qui tombe dans la délinquance, et que ils finissent par commettre n'importe quelle mauvaise chose dans la vie. Et quand les enfants reviennent, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez toujours haïr vos enfants? Est-ce que vous allez être toujours méchant avec eux? Est-ce que vous allez vous venger parce qu'ils n'avaient pas respecté vos règles, parce qu'ils n'avaient pas respecté vos décisions, parce qu'ils s'étaient livrés dans des mauvais actes? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà la question qui pourrait se poser à n'importe quel père de famille. Supposons que vous posez des conditions à vos enfants et que vos enfants tombent dans la délinquance. Peu importe ce qu'ils vont faire. Mais si les enfants reviennent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez dans la Bible, il y a des conseils à ce niveau-là. Quand on parle des enfants prodigues, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous aviez des jeunes qui étaient dans des quartiers qui se livraient dans des actes de banditisme, et que ces jeunes prennent conscience et reviennent au bercail, et reviennent à vos traditions, reviennent à vous, qu'est-ce que vous allez faire comme parents? Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire si vous avez la réponse, parce que je suppose que vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes incapable de vous adapter. D'ailleurs, on le parle, hein. Et nous le parlons souvent, nous le prenons même à la limite. Nous invitons les gens à développer leur intelligence d'adaptation. Nous invitons les gens à développer leur intelligence d'adaptation. C'est une intelligence, il y a une véritable intelligence, de la même façon qu'il y a des intelligences, d'autres intelligences également. L'intelligence supranaturelle. Il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence intuitive. Ce n'est pas seulement la capacité à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des gens qui n'ont jamais appris à s'adapter. Pourquoi? Parce que quand ils reçoivent une formation, d'ailleurs, c'est là qu'il se trouve la différence entre une formation militaire et une formation sociologique et politique. Voilà pourquoi on dit souvent, la politique est tellement trop importante, on ne peut pas la laisser entre les mains des militaires. Voilà la raison qui est en arrière quand on parle souvent de la distinction entre la gouverne d'un pays et l'éducation et la formation militaire. Un militaire n'a pas la même mentalité qu'un politicien. Pourquoi? Parce que le militaire, il apprend à recevoir et à donner des ordres. Il est incapable d'aller au-delà de lui-même. D'ailleurs, je l'ai remarqué également, j'avais même fait ce constat-là au niveau de certaines personnes que j'ai croisées, que j'avais croisées dans ma vie. Il y a des ingénieurs qui restent coincés à l'intérieur de leur pensée, de leur profession. Vous avez des avocats, c'est le problème que je remarque souvent chez les avocats. Les avocats sont tellement coincés à l'intérieur du droit, tout ce qu'ils voient, ils ne le voient que à travers le droit. Il y a des gens qui sont des sociologues, ils ne voient que le monde à travers les yeux de la sociologie. Il y a des gens qui sont des religieux, ils ne voient le monde qu'à travers la religion. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Parce que le plus souvent, la formation des gens et le discours des gens, le vocabulaire des gens s'apparente beaucoup plus souvent à leur profession. Et puisque le vocabulaire que les gens utilisent, les mots que les gens utilisent, le discours que les gens arrivent à construire, s'inscrivent souvent à l'intérieur de leur profession, de leur cadre de profession. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, c'est la même mentalité également pour les militaires. D'ailleurs, ils l'ont même pas compris, hein. Ils n'ont pas compris pourquoi, autrefois, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la police, ni dans l'armée, hein. Il faut bien revenir sur cette idée, hein. Autrefois, la police était tournée surtout, recrutait que des hommes. Mais avec le temps, les systèmes de police, les systèmes militaires avaient fini par comprendre que tous les êtres humains étaient égaux et que l'homme et la femme peuvent être des militaires. Mais si on se basait seulement sur la force physique des hommes, on ne pouvait pas recruter des femmes dans la police. On ne pouvait pas recruter des femmes au niveau de l'armée. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que, bien sûr, il y a des femmes qui sont très robustes. Vous bien sûr, il y a des femmes qui sont très fortes, Ça, on le sait. Mais la grande majorité des femmes n'ont pas les mêmes forces physiques que les hommes. Vous l'admettez, hein. Alors, pourquoi on aurait inscrit des femmes dans l'armée, dans la police? C'est parce qu'elles apportent quelque chose de différent que les hommes ne pouvaient pas apporter. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous prenons les différences entre les êtres, entre les espèces, à l'intérieur d'une même famille d'espèces, c'est la même chose qui est posée également. Chacun a ses points forts. Alors, c'est la même chose qui nous est posée présentement par rapport à la police. La police est restée dans une logique militaire. La police est restée dans une logique policière. Elle est incapable. Donc, s'ils avaient des gens comme ennemis, ils vont rester des ennemis de ces gens-là. Ils ne peuvent pas suivre leur évolution. Ils ne peuvent pas comprendre leur capacité à s'adapter. Alors voilà la question qui est tournée vers les responsables de la police nationale d'Haïti. Qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre? Pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que la question est fondamentale. Parce que nous ne voyons aucun signe pour quelle raison que la police nationale continue à s'attaquer au chef de quartier, au leader communautaire. Pourquoi ils continuent d'attaquer? Tant que la police n'arrête pas d'attaquer les bandits, tant que la police n'arrête pas d'attaquer la population. D'ailleurs, on l'a remarqué également au Champ de Mars. À Port-au-Prince, au Champ de Mars, sur la place publique, à Port-au-Prince, on a vu que c'est la police qui tire sur la population. À la rue Romain, ce sont des policiers qui tirent. Ce sont des unités spécialisées de UDMO, de USGPN, qui ne cessent de tirer sur la population. Alors, ce que les bandits nous disaient déjà, que les vrais criminels, c'était pas eux, c'était des membres à l'intérieur de la police nationale, des corps spécialisés de la police nationale, qui faisaient des mauvaises actions contre la population. Et aujourd'hui, avec les réactions, avec les comportements de la direction nationale de la police nationale, alors, nous pouvons confirmer, d'un côté, qu'ils n'ont rien à défendre, parce qu'ils n'ont pas d'idéal, parce qu'ils n'ont pas de dessein. Et de l'autre côté également, puisque ce sont eux qui continuent de tirer sur la population, qui continuent de faire mal à la population, alors que les chefs des bandits demandent aux populations de revenir dans leur quartier, ils libèrent des prisonniers, ils libèrent des kidnappés, ils libèrent des personnes prises en otage. Mais qu'est-ce que la police fait?
La police continue d'attaquer, continue de tirer sur la population et causant encore des morts au sein de la population nationale d'Haïti. Et au final, ce à quoi que ça pourrait nous conduire, c'est que la direction nationale de la police nationale d'Haïti est en train de détruire les forces de la police nationale. Est-ce que vous avez saisi, est-ce que vous comprenez ce problème? Est-ce que vous arrivez à établir la différence entre les causes qui sont défendues par les bandits, donc les leaders communautaires, et la direction nationale de la police nationale à travers les corps spécialisés de la police nationale d'Haïti? Est-ce que vous arrivez à établir la distinction entre les deux? Quand vous avez un Ariel Henry qui est resté coincé à l'extérieur, qu'est-ce que vous défendez? Est-ce que vous défendez Ariel Henry ou bien vous défendez une situation qui permettrait... Alors, c'est ça que je comprends pas chez France LB, ainsi que tous ceux qui sont autour de lui, qui assurent la direction de la police nationale d'Haïti. Je me demande, je pose la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre? Quand quelqu'un est déjà... n'est déjà plus là... Et la population le dit, tout le monde le dit, tout le monde le dit, d'ailleurs, net. Vous avez compris, hein? D'ailleurs, net. Est-ce que vous avez compris ça? Vous, France LB, ainsi que tous ceux qui vous appuient et qui sont sortis comme des compères coqs, viennent frapper, mais sous l'estomac, pour dire c'est qui grand monde, c'est qui chef dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous défendez? Autre que diviser la population, autre que assassiner la population, autre que maintenir le pays dans cette violence-là. Ou bien, France LB ainsi que sa clique sont en train de défendre pour créer des conditions pour qu'il y ait un chaos dans ce pays, pour qu'il y ait une guerre civile dans ce pays-là. Nous lui avons suggéré la manière de s'en sortir. Il aurait pu assurer la transition pour pouvoir permettre à ce que la police s'adapte à la nouvelle réalité du pays. Le peuple demande un changement et ce changement doit s'opérer dans le pays. D'ailleurs, on peut même penser à ça également, hein. Et vous entendez parler, ces jours-ci, vous avez même entendu parler que des militaires américains seraient prêts à rentrer dans le pays pour pouvoir venir occuper le pays. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Pourquoi, quand la population mourait, pourquoi ils ne venaient pas dans le pays? Pourquoi ce n'était pas urgent? Pourquoi ce n'était pas une crise lorsque la population haïtienne, seulement en 2023, comme nous le répétions, comme nous le disions déjà, c'est entre 8000 et 9000 personnes qui sont mortes dans le pays. Et seulement pour le mois de janvier, février et jusqu'au mois de mars qu'on est rendu présentement, il y a déjà plus que 3000 personnes qui sont assassinées injustement, de façon inutile dans le pays, là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? D'ailleurs, c'est la même chose, on peut poser la question également par rapport au commissaire Muscadet qui se trouve dans les NIP. Nous avons compris chez lui qu'il est en train de comprendre, qu'il est en train d'apprendre, qu'il faut s'adapter. Je comprenais, on peut comprendre très bien, on pouvait comprendre très bien quand il luttait contre les bandits dans sa région. Mais vous avez remarqué qu'il a fait un peu de silence et qu'il est en train de s'adapter également. Pourquoi il est en train de s'adapter? Il a compris parce que lui, il avait une vision pour le pays. Son objectif n'était pas de lutter contre les bandits. Vous saisissez ce que je suis en train de dire. Le commissaire, ce qui était des objectifs pour le commissaire Muscadet dans les NIP, ce n'était pas de lutter contre les bandits seulement, c'était pas ça seulement qui était plus important pour lui. C'est de lutter pour la paix dans le pays. Alors, il est en train de comprendre que si les bandits ne s'attaque plus à la population. Si les bandits comprennent qu'il faut qu'ils reviennent pour défendre des changements dans le pays, il n'a plus d'objectif pour pouvoir les cibler. Est-ce que vous comprenez?
Alors, il peut arriver à cette entente avec eux autres. Il peut les comprendre et que, en même temps, les bandits peuvent comprendre également pourquoi le commissaire Muscadet s'attaquait à des bandits. Est-ce que vous avez compris tout ça, hein? Alors, si le commissaire Muscadet peut comprendre qu'il faut qu'il s'adapte et que les bandits ne vont pas se venger sur lui d'abord. D'abord, il faut pas que les bandits aillent se venger sur le commissaire Muscadet parce qu'il faisait sa job. Et qu'il était en avant-garde. Il était en avant-garde par rapport à eux autres parce que lui, il s'empêchait. Il ne tolérait pas que des bandits empêchent la population de vaquer à leurs occupations. Que des bandits posent des problèmes pour les populations locales de la région des NIP. Et là, aujourd'hui, ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit faire, et je suppose que c'est ce qu'il est en train de réfléchir là-dessus également, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité. Une fois que les bandits cessent de s'attaquer à la population, il ne chassera plus les bandits dans sa région. Vous comprenez? Mais si un jour les bandits reviendraient à leur case de départ, alors ils se mettraient encore à s'attaquer à ces bandits. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors c'est la même question qui est posée présentement à Franz Helmé et à toute sa clique qui l'entoure aujourd'hui, ainsi que les responsables des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. La question est posée pour eux. Qu'est-ce que vous êtes en train de défendre? Est-ce que vous vous opposez au changement dans le pays ou bien est-ce que vous êtes pour le statu quo dans le pays? Si vous êtes pour le changement dans ce pays, vous allez faciliter le développement du pays, vous allez faciliter le changement dans le pays. Mais si vous êtes contre, c'est-à-dire que vous défendez Ariel Henry, vous défendez les intérêts de la bourgeoisie, vous défendez les intérêts des puissances colonialistes et impérialistes qui ont des seuls objectifs pour pouvoir envahir le pays et coloniser à nouveau le pays. Et dans ce cas-là, vous allez faire s'effondrer toute la police nationale d'Haïti. D'ailleurs, regardez au commissariat de Maché-Salomon, regardez au commissariat de Bon-Repos, regardez ce qui s'est passé au commissariat au carrefour d'aéroport, au carrefour de la route de l'aéroport. Regardez ce qui s'est passé au Maché-Salomon, au commissariat de police du Maché-Salomon. C'est tout ce qui s'est passé dans ces commissariats-là témoigne une certaine résistance, une certaine opposition de la police et des corps spécialisés de la police par rapport au changement. Alors, si vous persistez dans cette voie, d'ailleurs, vous n'êtes même pas nombreux comme policiers, à pouvoir vous défendre contre à la fois des bandits, mais surtout contre la population. Vous ne pouvez pas vous défendre. Vous devez vous adapter. Cette intelligence d'adaptation est nécessaire. Et vous ne pouvez pas servir un seigneur qui n'a pas d'horizon vaste. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à saisir ce problème dans le pays? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il faut s'adapter? Lorsque les gens sont capables de changer, il faut reconnaître ça chez eux. Lorsque les gens qui étaient considérés comme des bandits, comme nos ancêtres se sont appropriés de la lutte plus globale, plus collective, pour défendre les intérêts de l'ensemble de la population haïtienne, êtes-vous capable de comprendre qu'ils sont en train de changer? Et lorsqu'ils posent des actes pour libérer des bonnes sœurs qui étaient prises comme des kidnappées, lorsqu'ils libèrent les routes nationales que vous étiez même pas en mesure de libérer, vous n'étiez même pas en mesure, la police nationale d'Haïti n'a jamais montré des signes pour pouvoir aller libérer les personnes qui étaient kidnappées. Ça veut dire que vous n'aviez aucune force véritable. Est-ce que vous comprenez tout ça, hein? Est-ce que vous arrivez à comprendre que vous devez développer votre intelligence d'adaptation? Alors voilà pourquoi ce que nous devons lancer comme message à tous les policiers, c'est de laisser tomber, c'est de ne plus recevoir des ordres de Franz Helmé ainsi que de toute la direction de la police nationale d'Haïti. Mais de l'autre côté également, nous devons demander à tous les leaders communautaires d'arrêter de s'attaquer au commissariat. Pourquoi? Je comprends que c'est difficile à vous demander. C'est très difficile à vous demander si vous comptez faire effondrer tout le système. Je comprends que vous pouvez comprendre ça. Mais sauf que vous pouvez leur donner un peu de répit pour que eux autres, ils décident de comprendre finalement. Ils finissent par comprendre qu'ils doivent se mettre de votre côté. Voilà, la question est cruciale, mais la question est complexe également. Nous savons pourquoi que c'est très complexe, pourquoi c'est difficile à expliquer à ce niveau-là. C'est très difficile à comprendre, je le sais, je le comprends. Mais c'est nécessaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est nécessaire d'arriver à cette compréhension-là. Et que les policiers ne sont pas des véritables ennemis des chefs des quartiers. Leur lutte ne vise pas, il faut pas lutter contre des simples policiers. Les policiers viennent de la matrice de la population, ils vivent dans les quartiers pauvres, ils sont issus des masses populaires comme vous autres. Il faut les protéger contre eux-mêmes. Voilà ce que j'appelle souvent. Des fois, j'arrive à protéger les gens contre eux-mêmes. Pourquoi je les protège contre eux-mêmes? Parce qu'ils ne sont pas éveillés à la conscience. Et lorsque vous êtes en face des gens qui ne comprennent pas encore, qui n'ont pas encore atteint ce niveau de conscience, vous devez les protéger contre eux-mêmes. Mais en attendant, il faut que la police nationale de son côté également arrive à comprendre qu'ils ne peuvent pas défendre des intérêts étrangers, ni non plus défendre le statu quo que représente Ariel Henry dans ce pays-là. D'ailleurs, Ariel est déjà à l'extérieur, qu'il reste définitivement à l'extérieur. Ariel est déjà à l'extérieur du pays. Il faut ignorer Ariel Henry. Il faut laisser tomber Ariel Henry. Est-ce que la direction de la police nationale d'Haïti, est-ce que toutes les forces vives nationales du pays peuvent arriver à comprendre cette réalité-là? Nous devons passer à une autre étape pour changer les choses dans ce pays-là. Voilà pourquoi, quand je parle de certains répits de la part des chefs de bandits, et surtout les leaders communautaires, comme je les appelle, est-ce qu'ils arrivent à comprendre qu'ils ne sont pas en guerre contre le simple policier? Ils sont en guerre contre ceux qui décident au niveau de la direction de la police nationale. Ce sont là nos véritables ennemis, les véritables ennemis du peuple haïtien, ce sont ceux qui maintiennent le système. Alors voilà pourquoi, si vous vous attaquez à un commissariat et puis vous ne prenez pas le contrôle du commissariat, si vous ne prenez pas le contrôle, qu'est-ce que vous défendez? Pourquoi vous avez essayé de vous attaquer à un commissariat? Si vous vous attaquez à un commissariat, vous devez prendre le contrôle également. Mais si vous ne prenez pas le contrôle de ce commissariat-là, à quoi ça a servi cette attaque contre le commissariat? Est-ce que vous êtes capable de comprendre tout ça? Parce que nous autres, nous sommes en train de vous guider, nous sommes en train de vous faire comprendre certaines choses. Nous voulons pas que vous deveniez des criminels. Parce que quand vous vous attaquez incessamment à n'importe qui, et que vous les abandonnez par la suite, vous vous approchez du chaos. Bien sûr, le chaos est nécessaire. Bien sûr, le chaos, tout chaos est nécessaire pour pouvoir refonder une nouvelle société. Mais ne soyez pas des criminels. Ne tuez pas injustement. Ne vous attaquez pas à des gens sans intérêt, sans importance. Est-ce que vous avez compris? Et à ce niveau, nous pouvons même reconnaître, à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est l'une des faiblesses que nous pouvons dégager entre la direction de la police nationale et le mouvement Vive Ensemble des chefs des bandits. Et si vous les écoutez, très bien, comme je le dis souvent, ici dans ce pays-là, en Haïti, il n'y a personne qui écoute personne. Alors quand vous les écoutez très bien, vous allez vous rendre compte pourquoi ils sont des leaders. Ils sont très bons en communication, hein. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont en train même de gagner le combat médiatique avec la police nationale. Pourquoi ? Parce que, un, ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Deuxièmement, ils sont en train de montrer qu'ils sont du côté du peuple. Ils sont en train de s'aligner du côté du peuple en renonçant à cette violence inutile contre la population. Et en facilitant la communication entre les régions, en permettant la libre circulation des voitures, des camions sur les routes nationales, ils sont en train de montrer qu'ils sont en train de changer et de cesser de persécuter la population. Mais sauf que du côté de la police, il y a de mauvaises communications, ils sont en train de mentir à tout bout de champ, et ce sont eux qui continuent d'assassiner la population haïtienne. Est-ce que vous avez compris tout ça? Est-ce que vous êtes capable d'arriver à comprendre que ce que les chefs des bandits sont en train de gagner le combat médiatique? D'ailleurs, ce sont de bons communicateurs. Quand vous les écoutez bien, que ce soit, et chacun avec son propre style également, hein, parce que nous autres, nous évaluons, nous écoutons pour pouvoir évaluer, mais pour également reconnaître certaines choses, certaines caractéristiques qui permettront à ceux qui vont les étudier plus tard pour pouvoir comprendre comment c'était passé. Parce que nous devons dégager des théories qui permettent d'expliquer certains changements, certains comportements chez eux. Nous avons pris beaucoup de temps pour pouvoir arriver à leur expliquer et à les faire comprendre qu'ils peuvent changer, qu'ils peuvent devenir de véritables citoyens, de véritables leaders pour leur communauté. Nous avons pris le temps pour l'expliquer. Nous sommes allés au plus profond de la psychologie, de la métaphysique, même à la limite. Nous sommes allés très loin de la psychanalyse pour pouvoir leur expliquer et pouvoir arriver à leur faire comprendre que par eux-mêmes, ils pouvaient changer. Voilà les références que nous avons prises pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir leur faire comprendre. Et puisqu'ils nous écoutent, et qu'ils arrivent à comprendre tout ce que nous disons, malgré nous sommes en train de nous exprimer dans une langue étrangère, mais ils ont assez d'intelligence pour pouvoir nous comprendre et ils arrivent à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que nos objectifs, ce n'est pas d'aboutir à une société de criminels, d'aboutir à la guerre civile en Haïti, mais d'arriver à construire un véritable bloc national où tout le monde seront, où tous les citoyens, quelle que soit leur origine, puissent se placer du même côté et à partir de là opérer de grands changements dans le pays. Prendre le contrôle de ce pays-là. Le pays que nos ancêtres nous avaient donné le 1er janvier 1804. La liberté que nos ancêtres nous avaient accordée, nous avaient permis d'obtenir le 1er janvier 1804. Mais qui a été confisqué par la vieille bourgeoisie traditionnelle mulâtre d'Haïti, mais également volée, pillée par la nouvelle bourgeoisie de la fin des années 1800, de la fin des années 1890, et qui a permis à ce qu'il y ait cette nouvelle bourgeoisie arabo-juive dans ce pays-là. Voilà, est-ce que vous avez compris, hein? Que nos ancêtres nous avaient donné un pays, mais que la bourgeoisie arabo-juive nous a volé pendant ces dernières années. Pendant ces 120 dernières années qu'on nous a volé. Et qui a mis ce pays, qui a mis la grande majorité de la population haïtienne exclue de la société. Quand vous avez des étrangers, quand vous avez des mulâtres, quand vous avez des Arabes, des Juifs, qui se sont accaparés de toutes les richesses de ce pays-là en excluant la grande majorité de la population haïtienne. Et que des politiciens comme Ariel Henry, comme André Michel, ont travaillé à maintenir exclue la grande majorité de la population haïtienne. Alors vous pouvez comprendre à quel niveau qu'il est nécessaire de refonder cette société haïtienne, à quel niveau qu'il est nécessaire de refonder la nation haïtienne, à quel niveau, mais surtout, pourquoi il est nécessaire d'arriver à un changement de système.
Nous vous expliquerons, nous prendrons tout notre temps pour vous expliquer comment opérer ce changement de système. Et c'est quoi ce système-là? Nous prendrons le temps de vous le faire. Nous prendrons tout le temps nécessaire pour vous expliquer les sources du pouvoir en Haïti, les institutions, l'organisation, la structure. Le système en question que vous voulez démanteler, que vous voulez détruire et reconstruire, ce changement radical que vous proposez dans ce pays-là. Nous prendrons tout le temps nécessaire pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer ce système de fond en comble et quels sont les éléments agissants de ce système-là. Mais également, en même temps, nous devons vous mettre en garde. Et surtout, nous l'avons remarqué, qu'ils sont en train de nous penser, de nous filer une petite vite à ce niveau-là. Quand ils essayent de faire du recyclage institutionnel des gens qui ont pataugé dans le système. Voilà la question. Vous voulez faire un véritable changement? Vous ne pouvez pas construire avec du vieux. Vous ne pouvez pas faire du neuf avec du vieux. Ça, c'est important de le comprendre. Vous ne pouvez pas aller choisir. Vous ne pouvez pas rechercher la légitimité. Ce sont des petits politiciens, des politiques aïeux. Ce sont des politiques aïeux qui essayent toujours d'aller se récupérer auprès des institutions comme la Cour supérieure, pour pouvoir trouver des individus, pour pouvoir justifier leur logique de pouvoir. Alors quand vous parlez de changement radical dans ce pays-là, voilà, c'est juste pour vous avertir ce que nous allons vous expliquer un peu plus tard. Nous ne pouvons pas faire de changement avec des gens qui sont issus du vieux système. Vous ne pouvez pas aller récupérer, recycler des individus qui étaient dans le système pendant très longtemps pour pouvoir les amener dans un gouvernement de changement. Ils vont vous forcer à revenir avec l'ancien système. Et puisque vous allez devoir vous engager dans une voie électorale, dans une voie électoraliste, alors vous n'aurez pas le choix que de revenir dans le vieux système. Alors tout le changement que vous pouvez nous annoncer aujourd'hui, vous risquez de le faire effondrer. Voilà à quoi ça a servi les expériences. Souvenez-vous de toutes les actions que vous avez menées. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé dans ce pays au cours de ces dernières années. Pourquoi il a été facile de récupérer certains mouvements et pourquoi certains individus étaient capables d'arriver de partout pour pouvoir récupérer le pouvoir. Et quand vous essayez de trouver la légitimité auprès de certains partis politiques, lorsqu'ils ne se prononcent pas sur la crise du pays, comment se fait-il qu'il y a des individus qui puissent se retrouver à se réunir en cachette pour pouvoir faire des propositions alors qu'ils sont incapables, ils sont absents sur la scène politique, ils sont absents au moment de la grande crise que traverse le pays? Est-ce que vous êtes capable de comprendre tout ça? Voilà, ce sont des avertissements que nous vous donnons. Ne recyclez personne. Si vous voulez faire un véritable gouvernement révolutionnaire, vous voulez avoir un gouvernement qui n'aura pas de difficultés pour agir. Prenez des gens au sein des masses, au sein de la masse. Allez chercher des gens, regardez dans le Nord si vous avez des individus, des têtes pensantes. Allez regarder un peu partout dans le Nord, dans le Sud. Dans les NIP, aller chercher du monde pour pouvoir former un véritable gouvernement de consensus. Pas un gouvernement à partir des partis politiques, mais un gouvernement ou un conseil de gouvernement à partir des véritables leaders communautaires dans ce pays-là. Parce que au cours de ces dernières années, vous avez remarqué qu'il y a des leaders qui sont émergés un peu partout. Il y a des gens qui sont respectés, honnêtes avec eux-mêmes, dignes d'eux-mêmes. Il faut aller frapper à leur porte. Au lieu d'aller chercher du monde, nous ne voulons pas vous proposer des noms, mais vous pouvez, en vous ouvrant les yeux, ceux qui parlent dans le Nord, ceux qui agissent dans le Sud, dans les NIP, allez les chercher de préférence pour former un véritable gouvernement qui soit capable de changer les choses. Il faut qu'il y ait également des représentants, des leaders communautaires, ceux qui détiennent la véritable force pour faire changer les choses. Au lieu d'aller chercher une certaine légitimité auprès des ambassades, au lieu d'aller chercher une certaine légitimité auprès des institutions archaïques qui méritent d'être dénoncées dans ce pays-là, au lieu de vous baser, au lieu de vous entendre avec des leaders, des faux leaders des partis politiques,
essayer de trouver du monde dans le pays capable de faire le changement. Ceux qui ont de véritables forces pour changer les choses. Ceux qui peuvent faire peur. Mais également ceux qui sont ouverts d'esprit pour pouvoir négocier nos intérêts avec tout un chacun. Parce que la prochaine phase, les prochaines phases devront être de défendre les intérêts du peuple tout en négociant les intérêts des autres. Parce que nous devons rester ouverts d'esprit, nous devons nous adapter au changement, nous devons nous adapter notre désir de changement aux nouvelles réalités qui sont imposées à nous. Voilà tout ce qui fait toutes les différences. Que le nom grand et glorieux du royaume de Dieu soit béni pour toujours. Que le nom grand et glorieux du royaume de Dieu soit béni pour toujours. Que le nom grand et glorieux du royaume de Dieu soit béni pour toujours. Qu'il en soit toujours ainsi. Merci Père.